Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je continue la série de sermons sur les vices à éviter par les bons chrétiens. Nous avons vu, premier vice, l'aveuglement, le rejet de la vérité, de la foi, de la lumière de Dieu. Deuxième vice, dans la charité cette fois, penser plus à nous qu'au bien commun, c'est-à-dire plus à nous qu'à l'Église et qu'à la chrétienté. Et je continue avec l'exercice de la charité envers le prochain, qui est très difficile. On pourrait dire que toute la vie chrétienne est une école pour apprendre à résoudre ce problème, et plus que le résoudre, à pratiquer la charité comme Dieu la pratique. Les énoncés sont très simples. La mise en pratique suppose énormément de choses. On l'a dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, nous devons aimer notre prochain. Alors notre prochain, il est dans le monde. Que dit notre Seigneur sur le monde ? Il n'y va pas de main morte. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice, d'avoir manqué à la justice, et il le jugera. Oh là ! En fait, d'amour du monde. Et pourtant, non seulement c'est compatible avec l'amour, mais c'est une forme de charité. Alors comment allons-nous nous en sortir ? Avant de nous perdre dans des considérations concrètes, il faut que nous posions les principes. Alors le premier principe, c'est que nous devons aimer comme Dieu aime. Personne ne pourra dire le contraire. Or, le problème, quand nous disons que nous devons aimer comme Dieu aime, c'est qu'il est facile de penser à l'amour que Dieu porte pour le monde en oubliant l'amour que le Christ porte pour Dieu le Père. Or, ces amours sont inséparables. Quand Jésus-Christ aime le monde, il l'aime dans un même amour avec le Père. Ça, c'est la première chose. Qu'allons-nous en conclure ? La première conclusion à en tirer, c'est que l'amour pour le monde vient du Père. On ne peut pas frelater l'amour. La deuxième conclusion, c'est que l'amour pour le monde doit faire remonter au Père. Et on pourrait le dire d'une autre manière, c'est que l'amour du monde, quand je dis du monde, des gens qui sont dans le monde, bien entendu, puisque le monde est jugé, je ne vais pas vous dire de l'aimer, mais les gens qui sont dans le monde, eux, ne sont pas encore jugés. L'amour des gens qui sont dans le monde se fait dans la fidélité. Alors ça, c'est les grands principes. Ça éclaire quand même déjà beaucoup. Quand nous avons des problèmes maintenant qui sont courants en famille, absolument courants, dans la plupart des familles, vous avez un petit-fils, un frère, un cousin qui est en concubinage. Quand c'est pas encore pire. Vous êtes invité à une fête de famille ou vous invitez. Vous invitez le petit-fils, vous invitez le cousin et puis le cousin vous dit « Comment tu n'as pas invité en même temps une telle ?» Ou bien même sans qu'il ait besoin de vous le demander, vous savez que si vous n'invitez pas une telle, qui est la concubine de du cousin, ou la concubine du petit-fils, cela va faire un drame. Un drame avec le cousin, un drame avec la maman du cousin. S'il s'agit du petit-fils, ça va faire un drame avec la maman du petit-fils qui est votre fille, ou votre bru. Et nous nous trouvons dans un monde tellement à l'envers, qui a tellement perdu la notion de justice et de Dieu, qu'il est une évidence que tous ceux qui vont aller contre vous, parce que vous n'avez pas invité la concubine, seront soutenus. Et nous sommes dans un monde dans lequel on a fait tellement une charité bisounours que nous avons beaucoup de mal à admettre que quand même une charité qui va jusqu'à ce point de division soit une véritable charité. Pourtant, c'est dans l'Évangile. Je mettrai la division dans les familles, dit notre Seigneur. La belle-mère contre la bru, la fille contre sa mère, je mettrai la division, ça sera la guerre. Évidemment, il parle de la division dans les familles pour la fidélité à Dieu. Je ne veux pas dire qu'ils ne mettent pas la paix, puisque je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais pourtant je vous donne la paix. Il donne la paix et la guerre. Alors je reviens à mon exemple. Vous avez des concubins. Alors on se dit, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous imaginez notre Seigneur Jésus-Christ dans la même situation. Et en principe, ça éclaire. Pas toujours. Pas toujours, parce que notre Seigneur a été si bon avec les pécheurs qu'on a tendance à croire qu'il faut être ne rien dire. Mais il ne faudrait pas oublier non plus ce qu'il a dit à ceux qui étaient le plus proches de lui, c'est-à-dire aux pharisiens. Parce que les pécheurs se sont éloignés de Dieu. Mais les pharisiens, c'est des purs, des durs. Bon, pas mal d'hérésie, mais enfin quand même. Et alors là, qu'est-ce que notre Seigneur a passé aux pharisiens, hein? Il n'y a pas que les vendeurs chassés du temple. Sépulcre blanchi. Enfin, si nous imaginons notre Seigneur dans cette situation, avec un cousin en concubinage, devant l'inviter à déjeuner pour une fête de famille, comment agirait-il envers la concubine? Je ne vous dis pas qu'on n'a jamais le droit de l'inviter, la concubine. Et c'est là où ça devient très difficile. Très, très difficile. Alors, là aussi, il va falloir des critères. Moi, j'ai bien le droit de l'inviter, la concubine, en tant que prêtre, pour parler avec le fidèle qui est en concubinage et leur montrer qu'il va falloir qu'ils régularisent les choses. Et comme je vais le faire en espérant le faire avec la bonté du bon Jésus, évidemment, je ne vais pas sortir le fouet. Seulement, c'est tellement facile. Même monsieur l'abbé Pivert, si exigeant, a déclaré en sermon qu'on avait le droit de recevoir la concubine du cousin. Je me dis ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on avait le droit de recevoir la concubine du cousin. Il se trouve qu'on la reçoit, mais ce n'est pas un droit. Comprenez, pas du tout pareil. Bon, habituellement, je vous rassure, quand même, on refuse la concubine. Pourquoi? Parce qu'on fait une fête de famille, et ceux qui démolissent la famille n'ont pas le droit d'être invités. Alors que notre Seigneur a déclaré qu'il était un signe de contradiction. Un signe de contradiction. Alors, deuxième principe qui découle de la charité telle que le bon Jésus l'exerce. C'est dans l'Écriture sainte, Saint Paul. Veritatem facientes in caritate. Faire la vérité dans la charité. On pourrait dire tout aussi bien faire la charité dans la vérité. Ne jamais séparer la charité de la vérité. c'est-à-dire de la loyauté, c'est-à-dire de la fidélité, c'est-à-dire, comprenez. Est-ce loyal de traiter la concubine du cousin, qui est une brave fille? Qui est une brave fille? Et si ça se trouve, pour comble, c'est le cousin qui est le plus coupable. Moi, j'ai vu ça souvent, hein, dans les affaires de mariage que j'ai eu à régler. Le traditionnaliste faible, lâche, et donc déloyal envers la femme. Déloyal. Au lieu de lui dire, ma belle, t'as beaucoup de qualités, mais il y a des règles, on se laisse aller. Il y a donc une question de loyauté en même temps que de charité. Et de charité dans la loyauté. Est-ce loyal d'inviter des gens qui sont dans cette situation, loyal envers elle, puisque j'ai supposé que c'était elle qui n'était pas de la famille, que c'est votre cousin, loyal envers elle, loyal envers lui, de lui faire croire qu'il n'y a pas de problème familial, que sa famille n'a pas de problème. C'est pas loyal. La première chose, c'est d'essayer de le sortir du problème. Est-ce loyal envers les autres cousins? Vous en avez un qui est fidèle à son épouse. Il fait tous les efforts pour être fidèle à son épouse, pour être loyal, pour travailler. Et puis, on traite les concubins de la même manière que celui qui se donne du mal et qui est fidèle. C'est pas loyal. Est-ce que c'est loyal envers celui que sa femme a abandonné et qui ne s'est jamais remarié, d'accepter un homme qui a pris une divorcée? C'est pas loyal. C'est pas loyal. Je vais aller plus loin, on n'est pas obligé d'être à tous les mariages, hein. Même quand on est le père. Je sais bien, la fraternité Saint-Pie-X en Amérique, il y a 20 ans déjà, a refusé tous les sacrements à un père de famille simplement parce qu'il refusait d'être au mariage de son fils. C'est inadmissible. Chacun se mêle de ce qu'il regarde, même quand il est prêtre. Deuxièmement, parce qu'il y a une autorité du père de famille, avec la présomption en sa faveur. Troisièmement, parce que le père aurait pu être beaucoup plus méchant que de ne simplement pas assister au mariage. Quatrièmement, parce que dans ce cas-là, la fille n'était pas baptisée et qu'il y avait vraiment de quoi désapprouver. Donc je vous disais le deuxième principe, faire la vérité dans la charité dans la vérité, on ne triche pas. La charité ne permet pas de tricher. Toute triche est non seulement contraire à la vérité, mais contraire à la charité. Parce qu'une charité qui est triche n'est pas de la charité. Parce qu'il n'y a pas de triche dans la Sainte Trinité. Parce que notre Seigneur qui nous a aimés en montant sur la croix n'a pas triché. Il était très bon d'assumer lui-même les conséquences de nos péchés. Il les a assumés, il ne les a pas niés, il ne les a pas occultés, il ne les a pas effacés, il les a assumés lui, pour nous, mais il ne les a pas effacés, ni occultés. Et après ça, il nous demande de porter notre croix avec lui, c'est-à-dire de porter les conséquences de nos péchés, sans les effacer, sans les annuler, sans les nier. Troisième principe, qui découle du premier, à savoir que nous devons aimer le prochain comme Dieu l'aime, principe donné par saint Thomas d'Aquin, nous aimons dans le prochain ce qui est de Dieu en lui, et nous l'aimons pour le ramener à Dieu. Ça reste des principes. Donc l'application, je ne vais pas tout vous faire dans un sermon, nous avons 3 années de cours de morale, nous au séminaire, 3 années de cours de morale, je ne vais pas tout vous résumer en un sermon. Aimer ce qu'il y a de Dieu en lui. Voilà pourquoi nous pouvons aimer le pécheur tout en détestant le péché. Il y a, dans les pécheurs, beaucoup de choses qui sont de Dieu. Cette fille, elle est bien. Elle s'occupe bien de ses enfants. D'ailleurs, elle a des enfants. On ne peut pas dire le contraire, et ça vient de Dieu. Elle a peut-être gâché beaucoup de choses. N'empêche que ça vient de Dieu. De même, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est compliqué, je viens de relire le livre « Les aumôniers de la guillotine ». J'ai relu cette histoire terrible de ce prêtre jureur qui s'occupait de donner les sacrements aux pauvres guillotinés. Et puis, quand la révolution a avancé, il a fallu que tout le monde se déprêtrise. Son évêque s'est déprêtrisé. Lui a été fidèle sur 12 vicaires généraux. Il n'y en a eu que 3 qui ne se sont pas déprêtrisés. Il était un de ces 3-là. Puis la révolution a avancé un petit peu plus encore. Puis il a failli être broyé et il a écrit une lettre pour dénoncer un de ses confrères non-jureurs. Il s'est retenu à la dernière minute, la lettre n'est pas partie, n'empêche que quand on a fait une perquisition, on l'a trouvée dans le tiroir. Et puis il a fini par se déprêtriser lui aussi. On ne sait pas très bien si la lettre est partie, en tout cas, on l'a retrouvée. Puis il a été faible, il a reconnu qu'il était faible, il a demandé pardon, et l'Église lui a rendu un poste plus tard. C'est beaucoup, vous savez, ça serait beaucoup si le sermon que je vous fais met le doute dans votre esprit. Ce serait déjà beaucoup. Nous n'avons pas les vues de Jésus-Christ, nous n'avons pas le cœur de Jésus-Christ, hélas. Et nous avons tous tendance à croire que nos vues sont celles de Jésus-Christ. Et nous avons tous tendance à croire que nos décisions sont celles de Jésus-Christ parce que ce sont des décisions d'un chrétien traditionnaliste. Et puis que ce sont les miennes. Voilà, donc le deuxième principe, et je vais terminer là-dessus. Aimer dans le prochain ce qu'il y a de Dieu en lui. Et en même temps, le ramener à Dieu. Et je donne un dernier exemple que vous avez dans le code de droit canonique. Un exemple qu'on a souvent montré, mais on n'a pas montré les deux aspects apparemment contradictoires, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'est jamais écouté. L'attitude de l'Église envers les schismatiques, les vrais schismatiques, les orthodoxes schismatiques. Elle a pitié d'eux. Leurs prêtres sont des vrais prêtres. Mais ils se sont coupés de l'Église, donc ils ne peuvent pas parler au nom de l'Église lorsqu'ils donnent l'absolution. Et l'Église dit « Oh là là, les pauvres !» Tant de gens qui croient avoir l'absolution quand ils confessent leurs péchés et qu'ils ne l'auront pas. Et l'Église donne le pouvoir à ses prêtres. Et l'Église, qui a déclaré que seuls les prêtres reconnus par elle pouvaient marier, donne les pouvoirs à ses prêtres pour marier. Et l'Église fait tout pour que ces pauvres orthodoxes qui ont été victimes soient dans la situation la moins défavorable possible pour leur âme. Et en même temps, elle interdit à un catholique d'avoir quelque commerce que ce soit avec ces gens-là, et avec ces prêtres-là. Elle interdit d'assister à leur messe. Elle interdit de se confesser à eux. Elle interdit de se marier devant eux. Elle excommunie les gens qui le font. Elle excommunie les gens qui le font. Et ça n'est pas contradictoire. On reconnaît dans l'orthodoxe qu'il y a encore de Dieu en lui. Il est prêtre. On veut ramener les âmes aveuglées à Dieu. On donne tout ce qu'il faut. Et vous avez, je termine par cet exemple qui est encore plus frappant et très éclairant. Alors, à qui je vais poser le cas de morale ? Augustin, tu es prêtre, on suppose, hein ? Tu es appelé au chevet d'un mourant schismatique, donc tu sais ce que sont les schismatiques, hein ? Les orthodoxes qui ont quitté l'Église, donc tu es un brave type, qui a été fidèle à Dieu comme il le pouvait toute sa vie, il est mourant, et on t'appelle au chevet de cet orthodoxe. Monsieur l'abbé, te dit-on, ce monsieur n'a pas de prêtre orthodoxe pour lui donner le sacrement, venez le faire. Donc, que réponds-tu? Ah, est-ce que tu y vas, est-ce que tu ne vas pas?
On y va. On
y va. Bonne réponse. Tu arrives près de l'orthodoxe, et puis l'orthodoxe a perdu conscience. T'aimerais bien lui dire, monsieur, il faut revenir à l'Église catholique, j'ai les pouvoirs de vous absoudre de l'excommunication, mais il a perdu tout sens, la parole, il a perdu conscience. Tu lui donnes les sacrements ou tu ne les donnes pas? Oui, mais tu avais envie de les donner, puis tu t'es dit, ça ne doit pas être la bonne réponse. C'est ça? Pourtant, c'était la bonne réponse, tu les donnes. Maintenant, ce schismatique a sa conscience. Il sait que tu es prêtre catholique, il sait qu'il est orthodoxe. Est-ce que tu as le droit de lui donner les sacrements sans qu'il fasse d'abord une abjuration? Non. Et là, tu n'as pas hésité. Et tu as eu raison. Loyauté, il a sa conscience, on ne peut pas tricher en lui disant « Moi, prêtre catholique, je fais comme s'il n'y avait pas de problème. » Pour lui, pour les assistants qui sont à côté, on ne fait pas d'œcuménisme. Maintenant, s'il a perdu conscience, qu'est-ce que vous voulez? On espère, et donc on donne les sacrements en se disant « Le bon Dieu se débrouillera avec ça. » Et ça n'est pas contradictoire. L'application est très simple. Comment se fait-il que nous soyons si indulgents, nous les prêtres de la fidélité, avec tous ceux qui n'ont pas compris, et si intransigeants avec vous qui avez compris? C'est la même chose. Un aveugle, on essaye au moins qu'il ne tombe pas dans la fosse. Et celui qui a vu, on ne va pas lui dire de s'approcher de la fosse. Et encore moins de descendre dedans. Et c'est là tout le problème de la fidélité catholique aujourd'hui, de ceux qui ont quitté la fraternité Saint-Pédis, de ceux qui ont vu qu'il y avait un véritable problème actuellement dans la fraternité Saint-Pédis et dans la tradition, et c'est là tout leur problème. Comment se fait-il que nous soyons indulgents et nous sommes bien obligés de l'être? Et donc, par conséquent, il ne faut pas être intransigeant. Et puis quand nous sommes intransigeants, on va en conclure que nous n'avons pas d'indulgence. On n'a pas le droit de fréquenter ces gens-là qui sont dangereux, donc on les condamne. Non, non, on ne les a pas condamnés. Les braves gens qu'on rencontre, qui vont pieusement au rite de Paul VI de la messe, est-ce qu'on va leur mettre le trouble? Est-ce qu'on va leur dire de ne pas se confesser au prêtre auquel ils se confessent? On va leur dire de peut-être pas suivre le pape actuel. Et peut-être bien également de ne pas suivre les évêques. On va pas troubler, on ferait plus de mal que de bien. Et en même temps, nous vous disons de vous séparer de ces gens-là, de ne pas avoir de commerce religieux, ça s'appelle communication sacris, de ne pas avoir de commerce religieux avec ces gens-là, parce que ils sont quand même dans une situation pas honnête avec Dieu, même s'ils ne s'en rendent pas compte, pas juste, et dangereuse pour eux, dangereuse pour vous, et dangereuse pour vos enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.